Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat du second tour des législatives dans la 4e circonscription de Bresse et Val-de-Saône en direct sur Radio Bresse en partenariat avec les journaux L'Indépendant du Loannais et du Jura et le Journal de Saône-et-Loire. Je veux d'abord remercier les débatteurs Cécile Untermaier et Éric Michoux d'avoir accepté cette invitation et de quelque part faire le jeu de la démocratie. Nous en sommes tous on l'apprécie, voilà, nous en sommes tous gré. Débat donc entre Cécile Untermaier, députée sortante, candidate socialiste Union de la Gauche, arrivée deuxième du premier tour dimanche dernier avec 29% des voix, et Éric Michoux, maire d'Épervent, chef d'entreprise, candidat investi par l'Union LR-RN, Les Républicains, le Rassemblement National, arrivé en tête avec 44% des suffrages. Les trois thèmes de campagne qui vont être abordés au cours de ces 45 minutes sont, nous l'avons choisi entre nous les journalistes, vous allez voir lesquels, la santé, l'économie et le positionnement politique, autrement dit la gouvernance. Alors pour poser les questions, Hugo Simard du journal L'Indépendant et David Pipogno du journal de Saône-et-Loire et moi-même, mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Le tirage au sort a désigné Cécile Untermaier pour commencer. La première question, madame Untermaier, vous est posée sur le thème de la santé par Hugo Simard.
Oui, bonjour madame Untermaier. On connaît la désertification médicale de plus en plus importante depuis une vingtaine d'années, voire plus sur le territoire. On connaît le nombre de médecins non remplacés, ceux qui vont bientôt partir en retraite dans les 10 ans, le chiffre pourrait être affolant. La difficulté à retrouver un médecin traitant ou un spécialiste sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que vous avez prévu comme mesure concrète? J'ai vu que dans votre programme, vous proposiez l'imposition de la répartition des médecins sur l'ensemble du territoire dans les zones où il y en aurait soit sous-dotées, soit surdotées. Comment ça s'appliquerait concrètement, sachant que la Bresse a une partie de zones prioritaires?
Elle est devenue zone d'intervention prioritaire grâce à mon initiative, je tiens quand même à le dire, parce qu'effectivement, on connaît un désert médical qui est extrêmement préoccupant, avec des Bressans qui n'ont pas de médecin référent, qui viennent me voir et qui me demandent la solution à apporter. Alors, on a fait avec Arnaud Montebourg des maisons de santé, et la Bresse est bien dotée de maisons de santé. Pour autant, le problème, c'est que désormais, ce sont les médecins dans ces maisons de santé qui ne sont plus là. Et je disais déjà hier deux exemples. Crisset, qui a 4 maisons de santé et qui n'a plus qu'un médecin. Vous avez Cuisery, qui a attendu 2 ans pour que sa maison de santé puisse accueillir un médecin, alors qu'elle a 3 cabinets de santé qui ont été construits grâce aux deniers publics. Donc on a un vrai problème. Romney, c'est pareil. On a eu un médecin formidable qui a tout fait pour obtenir la venue d'un nouveau médecin qui est là. Mais le souci, c'est que s'il n'y a pas plus de médecins, ils vont s'épuiser, ces professionnels. Donc nous devons absolument trouver une solution. La solution que nous portons depuis des années et d'une manière transpartisane, c'est une régulation qui permet de préserver le caractère libéral de la médecine tout en faisant en sorte que les médecins pour lesquels la sécurité sociale finalement intervient, eh bien, soient au rendez-vous des citoyens qui en ont besoin. Et donc nous souhaitons que dans les zones surdotées, parce que l'Agence régionale de santé a identifié des zones surdotées, les médecins qui veulent s'y installer ne peuvent le faire dès lors qu'ils ne viennent pas remplacer un médecin. Et dans cette hypothèse-là, il n'y a pas de conventionnement possible avec ce médecin. Et puis dans les zones sous-dotées, eh bien, il faut travailler à ce sujet. Mais il n'y a pas que ce problème-là en matière de santé.
C'est une solution que vous proposez, hein, et qui est effective.
Eh bien, écoutez, la proposition de loi a été déposée à l'Assemblée.
Mais elle n'avait pas été adoptée.
Elle a été discutée, mais rejetée, et en particulier par le Rassemblement national.
Éric Michoux, sur cette question-là.
Sur la question de la contrainte, faut-il contraindre? On sait sur une profession qui, de manière corporatiste, souvent ne souhaite pas être contrainte à une installation.
Oui, avant, je voudrais juste dire un mot en introduction un peu différent.
Alors,
du
on sujet. Est sur ce sujet-là.
Oui, oui, mais juste un mot, quand même, si vous me permettez, vous avez parlé de démocratie. Je voudrais, parce que j'ai peu le temps de le faire à votre entrée, de remercier tous ceux qui ont voté sur...
Mais vous aurez le temps de faire à la fin, si vous voulez. On est vraiment sur le thème de la santé, c'est vraiment intéressant.
J'en doute pas, mais laissez-moi terminer. Et de remercier, évidemment, tous les électeurs, mais aussi ceux qui se présentent comme Madame Untermaier, parce que dans les moments où on vit aujourd'hui, c'est très compliqué, effectivement, de faire vivre la démocratie. Et de remercier M. Anthony Vado, qui n'a évidemment pas pris parti pour qui que ce soit aujourd'hui sur ces questions-là. Il a bien raison de le faire. Madame Untermaier vient de nous faire un discours d'impuissance. Voilà que ça fait 12 ans qu'elle est, ou 3 ans qu'elle est aux affaires, et elle parle de désert médical. C'est bien triste. Effectivement, il faut pouvoir trouver des médecins, il faut essayer de revenir aux racines du mal. Quelles sont les racines du mal? Il y a deux choses principales. La première, c'est effectivement le vieillissement de la pyramide de l'âge des médecins. Et puis, il y a une évolution sociologique autour des médecins qui fait que les médecins ne souhaitent plus travailler en libéral et ils souhaitent de plus en plus travailler dans des maisons de santé. Et donc, ils veulent travailler moins, ils veulent travailler différemment. La médecine s'est largement féminisée, et c'est très bien d'ailleurs. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui, et c'est en train de se faire à travers le numerus clausus, de faire évoluer le nombre des médecins, puisqu'on était encore il y a quelques années à 6000 médecins, on est passé à 8000, et aujourd'hui, il y a des nouvelles directives qui datent de 2022, qui s'appellent le numerus apertus, qui justement ne limite plus le nombre de médecins qui vont être formés pour arriver.
Qui est proche quand même. Hein. Il n'y a pas eu de radicaux changements dans la formation.
Mais dans le filtrage.
Alors, vous dites ouvrir le numerus clausus.
Mais il n'existe plus le numerus clausus.
Oui, alors ça veut dire mais un médecin, pour le former, il faut 10 ans, grosso modo. Donc, quand est-ce qu'il y aura une solution à court terme?
Alors, déjà, il y a 8000 qui sont en train de se former, qui arriveront dans les mois à venir, dans les années à venir, puis. Il y en a 15 000, mais c'est une décision qui date de 2022, donc qui est récente, qui va certainement trouver ses fruits d'ici quelques temps. Une chose importante, puisqu'il y a deux sujets à voir sur la médecine, les problèmes qui nous intéressent, il y a des décisions sur du temps court et des décisions sur du temps long. Sur du temps court, c'est qu'est-ce qu'on peut faire exactement très rapidement? Très rapidement, écoutez, moi j'entends bien les discours qui se font. On a fait ci, on a fait ça à l'Assemblée. Moi, je suis maire d'une petite commune et j'ai réussi à faire venir un médecin, un psychologue, une infirmière et des dentistes.
Comment?
Incitation fiscale ou qu'est-ce qui...
Absolument pas.
Alors, en un mot, parce qu'après, on entendra Madame Untermaier là-dessus.
Oui. Déjà, on a tenté de... Il y a un problème important, c'est d'attractivité du territoire. Parce qu'il faut, quand on veut faire venir un médecin, que le territoire soit attractif. Ça veut dire que quand le médecin se déplace... Mais d'ailleurs, pour que toutes les professions, que ce soit en industrie, c'est pareil, il faut qu'il puisse, ce médecin, derrière, être accueilli avec toute sa famille et bénéficier de tout un environnement. Ça, c'est un travail qui est important aussi, et c'est aussi sur du travail, sur du temps long. Donc, à la fois, il y a l'évolution vers le numerus apertus qui va permettre d'aller jusqu'à 15 000 médecins dans quelques années, et puis il faut faire évoluer nos territoires, mais la Bresse est accueillante.
Et Cécile Untermaier, c'est aussi simple que ça, finalement, pas, rendre des conditions d'accueil.
Moi, j'ai d'abord une interrogation. Bravo, monsieur le maire, d'avoir
merci,
fait
madame.
Venir des médecins. Je voulais savoir dans quelle commune ça se place, tout ça.
Ça se passe à l'entrée de la Bresse, à Épervent.
Non, mais c'est dans quelle commune?
À Épervent.
À Épervent.
À Épervent, oui.
À Épervent, mais est-ce que vous ne vous êtes pas trompé, finalement, de circonscription?
Mais c'est pas le sujet, madame.
Non, mais c'est pas le sujet.
Non, mais on peut en discuter, mais je crois que c'est pas le sujet.
Ne m'interrompez pas.
Mais c'est pas le sujet.
C'est à Cécile Untermaier d'intervenir. Vous posez la question de la commune, ça se passe.
Chacun a le sujet qui lui convient.
Bien sûr, madame, allez-y.
Voilà, je voulais vous dire que... Je voulais simplement vous préciser que Épervent, c'est la circonscription de Châlons et que vous étiez à un moment vice-président à l'Aglo, donc vous aviez des actions politiques à mener. Oui, puis je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous ne l'êtes plus.
Non, parce que donc, j'ai choisi de m'occuper de ma commune et de me présenter.
Alors, bon, c'est vous qui le dites.
C'est moi qui dis, j'ai encore le droit de dire ce que j'ai. Oui, que je pense.
Oui, mais
permettez-moi,
moi
madame, s'il vous plaît.
Alors, Cécile Untermaier, sur la question...
Permettez-moi de m'étonner.
Mais Épervent n'a pas changé de géographie depuis des années. Ne soyez pas étonnés, on parle aujourd'hui de médecine.
Alors, écoutez, je crois qu'on se perd un petit peu, Cécile Untermaier, sur la question de l'accueil. S'il vous plaît, Éric Michoud, sur la question de l'accueil. Des conditions d'accueil, ça c'est important, mais est-ce que un député a la main là-dessus?
Écoutez, oui, par la loi. C'est la loi qui peut régler rapidement ce problème, parce qu'il faut à la fois, évidemment, ouvrir, et le journaliste a raison, le numerus clausus et le numerus apertus, c'est pas tout à fait la même chose. Et on a un problème pour ouvrir les universités à l'ensemble des personnes qui voudraient être médecins. Donc on a ce sujet-là qui est essentiel. Il manque de médecins en France, ça on le sait. Mais par ailleurs, il faut gérer la pénurie du moment parce que ici en Bresse, les gens tels que qui habitent par exemple juifs, des retraités qui sont venus s'installer, m'ont dit on repart. On repart parce qu'on n'a pas de médecin référent. Donc on a un sujet majeur et moi il me semble que la sécurité sociale est là pour préserver l'égal accès de tous sur l'ensemble du territoire français. Et il me semble que cette proposition qui d'ailleurs des républicains historiques, c'est-à-dire gaullistes, jusqu'à la France insoumise, ont signé cette proposition de loi qui a été rejetée et non signée par le RN parce qu'il n'a pas le courage d'aller contre le lobby médecin. Voilà, c'est tout.
Justement, je voulais rebondir sur cette question, Monsieur Michou. Vous n'avez pas répondu à la relance d'Hugo Simard. Est-ce que vous êtes pour ou contre contraindre les médecins à venir s'installer? Et vous, est-ce que vous auriez voté cette loi?
Moi, j'aurais très certainement voté cette loi, évidemment. Mais de toute façon, Madame Untermaier fait référence au Rassemblement national. En réalité, 50% des habitants de la circonscription ont voté pour le Rassemblement national et pour Éric Michoux.
Et au niveau national,
laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Madame, voilà. Vous coupez tout le temps.
Allez-y.
C'est gentil, s'il vous plaît. On me demande de répondre à une question. Contraindre, c'est très compliqué. Quand on dit qu'il n'y a pas le nombre de médecins nécessaires sur la France, c'est vrai, mais il y a des endroits... Il y a plus de médecins. Si vous allez
les
sur,
côtes,
le littoral. Vous avez raison, sur le littoral ouest, mais surtout sur le sud-est de la France. Donc il faut aujourd'hui, si on veut faire venir des médecins dans notre circonscription, j'y ai des entreprises, pas mal d'ailleurs sur la circonscription, il faut rendre le territoire attractif et faire donner envie aux médecins de venir. Voilà, c'est une chose.
En ce moment, il y a beaucoup de médecins étrangers qui, justement, font ce travail. Oui. Est-ce qu'ils seront toujours accueillis dans les mêmes conditions au fur et à mesure de la politique si M. Bardella venait être Premier ministre?
Bien évidemment, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est parisien, madame, c'est un point important. C'est un problème important, donc ne rigolez pas, s'il vous plaît. Quand on parle de médecine, on parle des médecins généralistes et des médecins de spécialité.
Mais là, il est question des médecins étrangers. Est-ce que, avec les questions de nationalité que pose le RN, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là?
Aucun.
Bah, c'est facile de répondre.
Aucun. Bah, je vous dis, c'est la réalité. Je ne vais pas dire le contraire. Il n'y a aucun problème. Pas de problème. Je vous dis, je n'ai pas trouvé des problèmes, il n'y en a pas.
Bon,
je vais me faire soigner par un médecin roumain ou une dame qui est roumaine, ou peu importe.
Cécile Lounepare, un mot pour clore sur cette question de la santé. Donc là, il y a finalement une vision qui est peut-être côté terrain. Éric Michoud dit qu'il faut rendre le terrain attractif. Et puis vous dites que c'est aussi du côté du Parlement pour voter les dispositions nécessaires.
Le Parlement doit être beaucoup plus fort qu'il n'a été. Et je pense que si... Moi, j'étais dans l'opposition pendant 10 ans. Et c'est vrai que j'ai constaté, en particulier depuis 2022, un piétinement du Parlement. Et l'incapacité pour nous qui étions souvent d'accord entre différents groupes politiques, à porter et à obtenir cette proposition de loi qui finalement fait l'unanimité désormais, puisque j'apprends que désormais vous souhaiteriez plébisciter le travail que j'ai mené. Eh bien, cette proposition de loi, nous n'avons jamais pu la faire adopter. Nous l'avons inscrite dans une niche d'une demi-journée, alors qu'en réalité, c'est un problème majeur pour la France. Donc, je crois que la santé, bien sûr, il y a des actions de terrain que les communes mènent et qui sont très bonnes et excellentes, et je les encourage, mais ça ne suffira pas. Il faut une politique nationale de santé qui permet de prévenir et de garantir l'égal accès aux soins de tout un chacun.
Tout à fait raison, et je voterai à l'Assemblée quand j'y serai votre proposition que vous aviez déjà proposée il y a quelques temps.
Il faudra la redéposer.
Voilà, donc ça c'est un rendez-vous pris pour l'avenir. Nous nous retrouvons dans un très court instant pour aborder avec vous, Éric Michoud, les questions économiques qui sont un peu votre cœur de compétence.
Radio Bresse, 92.8.
Pour sa dernière revue de presse, Radio Bresse vous donne rendez-vous à la Brasserie de l'Europe pour une émission en direct vendredi matin. À partir de 8h pour la matinale et 8h45 pour la revue de presse avec les journalistes de l'Indépendant, du journal de Saône-et-Loire et de Radio Bresse, bien sûr. Venez nous rejoindre sur place ce vendredi 5 juillet en direct à partir de 8h le matin à la Brasserie de l'Europe de Louhans.
Éric Michou, vous n'êtes pas pour une hausse des salaires quand on parle de pouvoir d'achat, mais plutôt pour une exonération des charges patronales aux entreprises qui augmentent les salaires. C'est un peu ce que vous nous avez expliqué dans votre profession de foi.
Mais vous avez tout à fait raison.
Donc, expliquez-nous un petit peu pourquoi augmenter les salaires a priori, ce ne serait pas une bonne idée.
Alors, augmenter les salaires, si on baisse les charges sociales d'une manière générale, on augmentera mécaniquement les salaires. Ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une difficulté à augmenter les salaires, les bas salaires, puisque plus ou moins autour du SMIC ou aux alentours du SMIC, lorsque vous voulez augmenter le salaire de 100 euros net pour un salarié, ça va coûter à l'entreprise entre 300 et 400 euros supplémentaires, parce qu'il y a eu des allègements de charges sociales, des allègements divers et variés qui font que les bas salaires sont moins taxés, ce qui fait que quand on veut les augmenter, ça oblige à des charges importantes pour l'entreprise. Et moi, je dis qu'il faut baisser les charges sociales, mais d'une manière générale. Pourquoi baisser les charges? Alors, on arrive quand même en France dans quelque chose qui s'appelle la smigartisation de la société, c'est-à-dire on est dans une société avec des salaires bas qui crée une dynamique économique faible et donc qui ne va pas améliorer la consommation. Lorsqu'on réduit les salaires, pour répondre très précisément à votre question, les charges salariales sur les salaires, vous réduisez les charges sociales, les charges salariales qui vont permettre à l'employé, au collaborateur de gagner plus.
Si l'entreprise le souhaite, elle n'est pas obligée, elle n'est pas obligée d'augmenter.
Ça va être une décision du gouvernement qui existera. En partenariat avec les partenaires sociaux, c'est très important de les mêler à l'affaire. Et puis lorsque vous changez, vous descendez les charges patronales, vous améliorez la compétitivité de l'entreprise, notamment le taux horaire. Si vous augmentez, vous améliorez le taux horaire de l'entreprise, vous le baissez par rapport, pour vous dire un chiffre, donner des chiffres, le taux horaire moyen d'une entreprise française est de 47 euros. Le taux horaire moyen d'une entreprise portugaise espagnole est de 27 euros. Il faut pouvoir le baisser. À ce moment-là, vous réinstallez la France dans une compétitivité et vous remettez en route une dynamique économique.
Entendu. On va écouter Cécile Untermaier sur cette question-là. L'argumentation d'Éric Michou, c'est une argumentation que vous pourriez reprendre, Cécile Untermaier.
Écoutez, je l'ai développée hier
lors
à
d'un
François.
Débat télévision.
Je pense qu'on a une situation extrêmement compliquée en France. L'appauvrissement des salariés est quelque chose de très préoccupant. Et ce n'est pas normal que lorsqu'on travaille, on ne puisse pas vivre normalement, aller au cinéma, aller au restaurant avec son mari ou ses amis. Et on est dans cette situation où on a des femmes isolées en particulier qui vivent seules avec des enfants, qui gagnent 1600 euros et qui n'y arrivent pas. Qui n'y arrivent pas parce que l'énergie s'est multipliée. Il y a 30% d'augmentation du panier de la ménagère et elles ont quelquefois 250 euros de dépenses pour aller travailler, de dépenses de fuel. Donc on a un vrai sujet d'augmentation des salaires. Il faut absolument, même on doit peut-être faire un grenade de l'emploi et des salaires.
Alors, augmenter les salaires, est-ce que vous seriez comme par exemple l'Union de la gauche qui parle dans son programme d'une augmentation du SMIC à 1600 euros net? Est-ce que vous y êtes favorable?
Moi, je suis, bien sûr, je peux être que favorable à une augmentation du SMIC, mais ce qui me gêne dans cette décision, c'est que le SMIC écrase ensuite, rattrape ensuite des salaires qui sont très bas ailleurs aussi et on crée un mécontentement. Je pense qu'il faut viser l'augmentation de tous les salaires. De tous les salaires, parce que la France est déclassée. Vous ne pouvez plus aller aux États-Unis faire un voyage parce que, effectivement, les États-Unis, c'est trop cher. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Il nous faut absolument augmenter les salaires, sans doute aider les entreprises à le faire parce qu'elles ne pourront pas le faire comme ça en l'état. Et ça peut être par la baisse des charges ou des cotisations sociales, je l'ai déjà dit.
Donc, c'est un point de convergence entre vous, finalement.
J'en sais rien. La seule différence avec vous, M. Michou, c'est que je pense que ce n'est pas le gouvernement qui décidera, mais c'est le Parlement. C'est le Parlement qui doit décider, effectivement, d'une diminution de charges et des effets positifs qu'elle peut induire. Ça ne peut pas être le gouvernement, parce qu'on en a assez d'avoir des gouvernements qui décident pour les parlementaires qui sont les représentants du peuple. Ça me paraît une décision du Parlement.
Et Éric Michou, il y a aussi cette proposition que vous faites, donc on comprend baisse des charges patronales, salariales, et aussi la baisse de la TVA. La TVA, elle pèse sur tout un tas de paramètres, et ça pose la question notamment d'une baisse de la TVA sur les carburants, qui serait peut-être un peu contre-productif sur les questions de l'environnement. Mais bon,
Absolument pas, attendez.
Ah ben si vous faites l'essence moins chère, on roulera plus, non?
Non, déjà on pourra rouler. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus rouler. Donc vous, vous pouvez rouler, vous avez un bon salaire, tant mieux pour vous, M. Boyez. Mais ceux qui ne peuvent pas rouler, ils ne vont pas polluer. Alors c'est vrai, quand ils vont commencer à rouler, oui, désolé, ces gens vont devoir rouler. Bah oui, les Bressans vont pouvoir rouler. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas rouler. Oui, monsieur. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'a dit Mme Untermaier, et qui est juste sur certains points tout de même. Il faudra, d'une manière générale, augmenter les salaires. On va vers la smicardisation de la France. C'est la manière dont on va le faire qui va être différente entre la manière qui est proposée par... le front...
Avec le Parlement, avec les représentants du peuple.
Avec le Parlement, ouais. C'est ça que je veux dire. Elle a dit une chose très juste, Mme Untermaier, avec le Parlement, mais avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux, parce qu'on les oublie, on les néglige. La loi qui devait sortir sur l'assurance chômage, complètement macrotée par M. Macron et sa clique, était faite complètement dans le dos des partenaires sociaux. Comment voulez-vous qu'ils appliquent ça?
Des partenaires sociaux qui sont pas du tout pro-RN, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a entendu les secrétaires de la CGT, de la CFDT, c'est pas vraiment...
Attendez, ça. Laissez-moi terminer, vous me posez des questions. Et...
Oui, voilà. Mais
après, il faut que je réponde à votre question sur la TVA.
J'alimente.
Parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de remettre les partenaires sociaux autour de la table. Ils ont été méprisés pendant ces 2-3 dernières années. Sur la TVA, revenons-y. La TVA, j'entends, oui, alors si... on baisse la TVA, il va y avoir des recettes de TVA en moins. Ah ben la belle affaire. De combien? Alors les Mozarts de la finance jouent avec les milliards, 9 milliards, 14 milliards, 6 milliards. Personne n'en sait rien. En réalité, la mécanique est la suivante. La base de la TVA, le volume de TVA aujourd'hui qui est collecté sur la base de l'énergie, pour l'état de l'énergie, puisqu'on va réduire la TVA sur l'énergie. L'énergie électrique, et qui va vous permettre, M. Briez, de vous rassurer, puisqu'on va utiliser des voitures électriques qui sont soi-disant pas polluantes, l'énergie thermique, les carburants. Mais quand on va baisser la TVA sur le montant des tarifs de l'énergie aujourd'hui, en fait, on va revenir à la collecte de la TVA lorsque les carburants étaient moins chers. Mais le complément de rémunération et le complément de pouvoir d'achat, une fois terminé, vous me posez une question, mais le complément de pouvoir d'achat qui va être donné aux personnes va permettre de consommer et de générer de la TVA.
Bon, vous dites que
c'est
ceci
tout un ensemble.
Suffisamment pour ne pas augmenter les impôts derrière?
Alors, oui monsieur. Attends, oui monsieur.
Je m'en vais.
Alors, oui monsieur.
Bah, alors, attendez,
c'est vous me pose la question, bah, je réponds.
Mais on a tous, la pendule en tête. Vous avez répondu, Cécile Untermaier, là-dessus sur la baisse de la TVA. Est-ce que c'est un des leviers qui peut être envisagé à
Écoutez,
gauche?
Écoutez, on y a songé un moment, on y a renoncé, compte tenu du coût que ça représente pour le budget de l'État. En revanche, ce que nous proposons, et là je suis d'accord avec l'ensemble des groupes de gauche, c'est un blocage des prix de l'énergie et des produits de première nécessité. Pourquoi un blocage des prix? Ça signifie que ce sont les fournisseurs d'énergie qui vont faire l'effort. Et c'est d'une manière indirecte aller vers les fournisseurs d'énergie et la grande distribution et leur demander, eux qui ont tiré profit quand même du Covid et de la guerre en Ukraine, eh bien de mettre la main à la pâte. Ça sera une contribution patriotique des fournisseurs d'énergie, mais aussi de la grande distribution dans un temps déterminé.
Et comment les empêcher de ne pas faire plus de marge, en fait, avec ces blocages ou même avec la TVA? Comment les empêcher?
Ils seront bien obligés, avec un blocage des prix, de diminuer leur marge. Voilà. Ils seront bien obligés de le faire parce que l'État ne bougera pas. Donc, de toute façon, on est dans ce dispositif. Mais je pense que c'est très technique et ça n'intéresse pas vraiment vous.
Ce qui intéresse, c'est ce qui reste.
Je pense qu'il y a un autre point qui me paraît extrêmement important. Et là où on peut rechercher de l'argent, comme vous le dites, c'est sur la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est 60 milliards. Et j'ai travaillé dans un groupe de travail, je co-préside un groupe de travail avec Olivier Marleix, qui est président du groupe des Républicains, mais historique, gaulliste, qui n'est pas votre ami. Avec Olivier Marleix, on travaille sur la lutte contre la corruption et contre la fraude fiscale. Et là-dessus, sur ce point, cela me paraît essentiel. Et le Rassemblement national a refusé le milliard que nous demandions pour mettre en place les dispositifs permettant de lutter contre la fraude fiscale. Nous l'avons beaucoup regretté.
Éric Michaud.
Oui, alors vous avez votre réponse, monsieur Pipponio. Vous me demandez comment on va le financer, madame Outermière vient de vous le dire. Donc c'est finançable. Elle vient de vous dire, on va se battre contre la fraude fiscale. Elle a très certainement raison. Donc c'est tout à fait finançable. Une autre manière de financer, je l'ai rappelé encore hier, c'est qu'aujourd'hui, un exemple, il y a environ 700 cabinets aujourd'hui en France, qui servent des cabinets pour conseiller l'État. des directeurs de directeurs. Ça coûte des milliards et des milliards et des milliards. Pratiquement tous les pays aujourd'hui sont en train de se séparer. Depuis que M. Macron est arrivé, on est passé de 200 à 700. Et c'est presque 20% de la masse salariale complète des services de l'État qui passe dans ces services-là qu'il faut arrêter tout de suite.
On a noté, vous avez chacun vos pistes, hein. On comprend un petit peu quels sont les leviers qui pourraient se poser. Une question en matière d'emploi vers vous, Éric Michoud, ça me paraît important. Le RN prône la priorité nationale, on parle plus de préférence nationale, on parle de priorité nationale en matière d'emploi. Quelle est votre position sur les emplois occupés par des étrangers en Bresse? Je prends certains abattoirs locaux qui emploient jusqu'à 50% de main-d'œuvre étrangère. On ne permet pas la régularisation de clandestins, prône le RN. Il n'y a plus d'accès à l'emploi pour ces personnes-là. Et des emplois qui ne sont pas.
Les clandestins, non, on ne va pas.
L'emploi est un mode d'accès à la société une fois qu'on travaille.
On ne va pas régulariser des clandestins, s'il vous plaît. C'est hors la loi.
Emplois qui ne seront pas pourvus, qui les occupera? Puisque, visiblement, la main-d'œuvre française ne suffit pas.
La main-d'œuvre française ne suffit pas. La main-d'œuvre étrangère est bienvenue. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura une émigration contrôlée suivant la nécessité de l'emploi de nos usines. Vous parlez des abattoirs. Donc, s'il y a nécessité d'avoir des personnes qui viennent de Pologne, de Roumanie, d'Italie, du Moyen-Orient, de où on veut, bien évidemment, s'ils sont en règle et avec les normes et avec les lois, ils auront tout à fait la possibilité de travailler dans notre beau pays. Voilà, on ne va quand même pas régulariser des personnes qui sont en irrégularité chez nous.
La priorité nationale, Cécile Untermaier, c'est un point de clivage fort.
C'est la préférence nationale.
Alors, il est question de priorité nationale.
J'entendais préférence nationale. Bon, je pense que la préférence nationale, elle est inconstitutionnelle, puisqu'on a posé le principe républicain de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, de toute façon, ce sont des dispositions qui ne pourront pas passer la rampe du Conseil constitutionnel. Alors, on nous répond qu'on n'en a rien à faire du Conseil constitutionnel, mais en fait, c'est notre état de droit qui est ainsi construit depuis des années et faisons très attention à cela. Moi, ce que je voulais dire pour revenir à la Bresse, elle n'a pas le problème de l'emploi, elle est dans le plein emploi. Elle est à 5% de chômage, c'est-à-dire c'est quasiment le plein emploi. En revanche, moi, ce que je constate, et les industriels m'appellent et les chefs d'entreprise m'appellent en me disant « Moi, j'ai un problème de main-d'œuvre, j'ai personne. J'ai des chantiers, j'ai des carnets de commandes qui sont pleins et j'ai personne pour faire le travail. » Je pense qu'on a des réponses à donner. Déjà, les personnes qui sont sur place, bien évidemment, les personnes qui sont sur place, qui doivent être formées dans des conditions de travail un peu différentes, parce qu'on a parlé des salaires, mais il faut aussi évoluer sur les conditions de travail. Les gens ne veulent plus travailler de la même façon. Donc on doit travailler là-dessus. C'est pour ça que moi j'appelle un Grenelle de l'emploi et des salaires avec les chefs d'entreprise. Je croise toujours mes propositions, et c'est pour ça que celles-ci sont croisées avec des chefs d'entreprise que je connais, qui ont de grosses entreprises et qui me conseillent, parce que j'ai besoin de leurs conseils. Et c'est pour ça que finalement j'élabore des propositions qui sont un peu divergentes par rapport à d'autres, à certains auteurs de mon groupe.
Oui, Éric Michoud, effectivement, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, ce problème de recrutement que je vous ai posé la question, c'est vous l'entendez forcément?
Je l'entends. Je suis industriel dans les métiers de la mécanique, de la mécano-soudure, et donc il existe. Il y a plusieurs leviers pour réussir à répondre à cette question. On peut toujours s'en indigner. Ok, les certificats d'impuissance, on voit bien, mais après, derrière, comment on peut améliorer la situation? La formation professionnelle, évidemment. Mais à nouveau, l'attractivité du territoire. Il faut aujourd'hui que quand des personnes arrivent sur notre territoire, arrivent dans un village, arrivent dans une ville, ils puissent avoir tous les services pour la famille. Et c'est nécessaire. Et ça, c'est très, très important. Oui.
Je vous laissais terminer sur effectivement la façon de pourvoir ces emplois qui ne trouvent pas de salariés.
Et puis alors, il y a une chose très très importante, qu'il y a une mutation de l'emploi, ça a été évoqué. On va vers le numérique, on va vers l'intelligence artificielle, on va vers des nouveaux métiers. Et ça va être un bouleversement absolument extraordinaire. Et il faut être dans cette mécanique-là, évidemment. Ça aurait pu être évoqué tout à l'heure dans la partie médicale, très très importante.
Alors voilà, on aurait pu y venir. En tout cas, cela ne sera pas possible puisqu'il faut que l'on passe au dernier sujet sur lequel David Pipponio va intervenir. On se retrouve dans un instant.
Naturellement, Radio Bresse.
Tu as moins de 25 ans, la musique t'intéresse, les infos locales aussi? Tu es passionné de son ou juste motivé à valoriser ton territoire? Alors le service civique de Radio Bresse est fait pour toi. Si comme moi, tu souhaites intégrer notre équipe, participer aux émissions en direct, aux enregistrements et montages, à notre communication et même à la création de nouveaux projets, n'hésite pas, contacte Radio Bresse au 03 85 75 33 33 ou par mail info@radiobresse.com.
Troisième et dernière partie de ce débat du second tour des législatives en Bresse et Val-de-Saône avec une question de David Pipogno sur le positionnement politique. Elle est adressée à Cécile Untermaier.
Cécile Untermaier, vous allez me dire que vous avez déjà répondu de nombreuses fois à cette question, mais je vais vous la reposer pour les auditeurs. Vous êtes députée PS sortante, investie par le PS, soutenue par le nouveau Front populaire. Sur tous vos documents de campagne, aucune mention ne fait référence à ce nouveau Front populaire ni même au Parti Socialiste. Pour quelles raisons?
D'abord parce qu'on me connaît. Je suis députée sortante, je suis députée depuis 2012. Tout le monde sait que je suis une candidate Parti Socialiste. Je l'ai été en 2012, je l'ai été en 2017, je l'ai été en 2022, je le suis en 2024. Est-ce que je vais dire ce qui était en 2012, où je marquais effectivement PS, en tant que députée sortante en 2017 et 2022, je suis désignée de fait par mon parti. C'est ce que ne savent pas les gens, c'est que je n'ai pas à attendre qu'il y ait des réunions au sommet pour savoir si je vais pouvoir être investie sur ce territoire. Donc, je suis désignée de fait par mon parti, sans attendre les accords nationaux NUPES ou Nouveau Front Populaire, et je n'ai pas l'habitude, si vous voulez, de signer les yeux fermés des accords sur lesquels je ne suis pas intervenue. Je prends acte de cette union, je pense qu'elle est attendue par les sympathisants et c'est une bonne chose, mais qui dit union dit aussi pluralité. Elle ne peut altérer ma personnalité politique. Ça n'est pas possible. Moi, je suis une personnalité politique attachée à des valeurs constantes qui sont la solidarité et la justice. Et quand vous me demandez si je n'ai rien inscrit sur mon affiche, ce n'est pas vrai. J'ai inscrit deux mots extrêmement importants, solidarité et justice. Et c'est ces deux termes-là qui font que je suis en capacité de travailler avec Clémentine Autain, qui est une LFI dissidente, sur les violences faites aux femmes, mais aussi avec Olivier Marleix, président du groupe républicain à l'Assemblée, sur la lutte contre la corruption. C'est mon positionnement central, en capacité de m'ouvrir sur la gauche comme sur la droite, qui me paraît extrêmement intéressant et c'est la raison pour laquelle mon affiche, c'est votre député, parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être député depuis 2012 dans ce territoire.
Éric Michou, vous êtes bien connu également sur la Bresse. Vous avez été candidat en 2007 sous l'étiquette UDF, donc du centre. En 2012, 2017, 2022, candidat divers droite, centre, la droite et du centre. En 2024, vous avez rejoint l'alliance LRRN, celle d'Éric Ciotti et de Jordan Bardella. Que répondez-vous aux personnes qui peuvent vous accuser ou vous dire d'avoir renié vos valeurs pour parvenir à être député et à suivre un mouvement national actuel?
Je ne renie aucune valeur. En réalité, effectivement, il y a eu une réflexion importante. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est l'union de la droite pour pouvoir répondre à une angoisse populaire qui est immense aujourd'hui. Vous vous rendez compte, sur la circonscription, plus de 50% des personnes ont répondu, sont au niveau RN, si on cumule RN, si on cumule tous les partis de droite, on est à plus de 50%. Il y a une vraie volonté. Vous faisiez référence, monsieur, à mon parcours depuis quelques années. Quand, en 2007, j'ai fait ma première élection législative, le Front National, très vieux parti, était à 1,5%.
2,9, exactement.
Ou même 2,9, mais ça ne change rien à la démonstration que je vais faire. Aujourd'hui, on arrive à 50% de gens qui veulent du changement. Ils veulent un changement. Ils ne veulent plus de tout ce tripatouillage politique où Madame Untermaier dit « Moi, j'ai rien mis, j'ai rien à voir là-dedans, tout le monde me connaît. » Enfin, tout le monde ne vous connaît pas, mais comme tout le monde ne me connaît pas. Mais quand même, vous êtes, pour la plupart des gens, à coquiner avec quelqu'un qui est fichier S. Vous êtes avec Madame Rousseau. Madame Rousseau, qui, elle, vient de faire un démonstre, vient de faire un
communiqué, dans le micro,
vient de faire un autre communiqué qui est le suivant. Alors elle a vite fait de régler le problème de la dette, puisqu'elle dit que la France est l'un des pays dont l'épargne nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette, quitte à contraindre les épargnants. Alors voilà avec qui vous êtes aujourd'hui associé.
Mais vous, Éric Michou, la question était
C'est pas moi, c'est vous, parlez de vous.
Oui, oui, mais j'explique pourquoi aujourd'hui.
Du glissement.
Mais j'explique pourquoi aujourd'hui il y a cette angoisse. C'est-à-dire aujourd'hui, la population est angoissée par tout ce tripatouillage politique de gens qui n'étaient pas d'accord, qui sont d'accord. Les gens se posent la question maintenant, comment va se développer le nucléaire? Comment va se développer avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre? Je dis qu'aujourd'hui, voilà, permettez de répondre, madame, oui. Puisqu'on vous me demandez, j'ai été amené à écouter nos administrés, écouter ce qu'ils disent. Ils ne veulent plus tout ça, tous ces tripatouillages de chapeau à plumes. Donc moi, justement, je suis dans ce sens-là pour répondre aux gens de la Bresse.
Ce tripatouillage...
Vous avez eu le même temps maintenant, on peut... Voilà,
je rebondis juste 30 secondes et après je vous poserai la question de Mme Thormeyer. Vous parlez de tripatouillage, du coup, est-ce que ça ne serait pas, certains le disent, un tripatouillage justement politique de rallier le RN, justement, cette alliance de partis? Est-ce que pour vous, ce n'est pas un tripatouillage également? Certains le disent.
Bah, ils ont tort.
Beaucoup.
Bah, ils ont tort. Mais pas en tout cas pas 50%, puisqu'il y a 60% des gens qui votent plus ou moins dans le sens où je suis là. La plupart des LR sont d'accord avec ça. Évidemment, aujourd'hui, il y a besoin de mettre au Parlement un ministre. Il va y avoir besoin de mettre un gouvernement avec un ministre qui va devoir avoir une majorité. Aujourd'hui, les gens veulent une majorité.
C'est une prochaine question, justement.
Et donc, ils veulent plus de tripatouilleurs et de bricoleurs.
C'est voilà. Une prochaine
Alors,
question,
la
justement.
La question à Cécile Untermeyer.
Cécile Untermeyer, donc...
Écoutez, je suis un peu surprise quand même, parce que parler de tripatouillage, quand j'ai exprimé ma constance depuis 2012 sur un même parti, et l'inconstance de M. Michou, qui a changé d'étiquette à chaque élection.
C'est faux.
C'est tout.
C'est faux.
Si, vous avez changé d'étiquette à tel point
Combien
que vous parlez de vos amis. On a compté 5 ou 6 fois.
5 ou 6.
Oui, vous partez. Vous
parlez. Mais lesquels? Mais dites-les, madame.
Mais je peux parler.
Éric Michou, on va écouter la réponse, si vous voulez bien, de Cécile Untermeyer.
Je suis désolée, je pense que ça vous met mal à l'aise.
Non, pas du tout.
Mais ce tripatouillage, et puis le fait d'aller, si vous aviez des valeurs de droite, eh bien vous feriez comme vos amis gaullistes de la droite historique qui en ont été malades, à savoir que leur parti pouvait aller avec le Rassemblement national, parler de préférence nationale. Instiller la xénophobie et le racisme et l'antisémitisme comme le fait le Rassemblement national et comme je l'ai vu le faire. Les propos haineux du Rassemblement national me gênent énormément. Je n'ai jamais vécu une campagne aussi délétère du point de vue de l'éthique et de la morale. Vraiment.
Vous êtes bien placé pour parler.
Justement, Cécile Untermeyer, si vous êtes élu dimanche député, si vous êtes élu dimanche député, vous serez quel type de député à Paris? Est-ce que vous pourrez travailler avec l'ensemble de vos collègues? C'est-à-dire que Si le Rassemblement national obtient une majorité, ne serait-ce que relative, voire absolue, quel type de député serez-vous et pourrez-vous travailler avec eux?
Je serai radicalement dans l'opposition du Rassemblement national et nous serons beaucoup radicalement dans l'opposition au Rassemblement national parce que nous savons tous que c'est le chaos. Nous savons tous qu'on n'y arrivera pas. Donc, je vous le dis très sincèrement, en revanche, je suis capable de travailler avec les LR, parce que j'ai travaillé avec eux. Je suis capable de travailler avec les écologistes, avec les communistes et avec une branche de certains de la France insoumise. Ça n'est pas un gros mot. Il y a, vous savez, je connais bien le Parlement. On est en capacité de bâtir des compromis. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais ce n'est pas en partant d'une extrême droite, là où vous vous êtes placé, que vous pourrez bâtir des compromis. Vous ne les bâtirez pas. Vous allez aller dans la lutte, dans l'affrontement, dans le bruit et la fureur. Et la France a besoin d'apaisement.
Mais madame, le bruit et la fureur, on l'a déjà, si vous ne l'avez pas vu. La France est pratiquement aujourd'hui au bord du chaos. C'est grâce à toute cette idéologie où on se moque complètement de ce que disent les gens. On s'en moque quand vous avez 50%.
Du chaos sur quel point?
Mais chaos politique, chaos institutionnel, on y arrive. Le président, vous serez incapable de nous dire qui va devenir Premier ministre si votre coalition, qui va du NPA, c'est-à-dire du parti anticapitaliste, jusque vous voulez, et vous êtes en train de draguer des LR maintenant, enfin vous appelez des LR, s'il te plaît, est-ce que tu veux voter pour moi? Jusqu'à Macron.
Il y a des LR qui ne sont pas RN.
Jusqu'à Macron,
qui est. Jusqu'à Macron, qui était un Mozart de la finance. Vous êtes sur cet axe-là. C'est un vrai scandale. Vous ne voulez pas le dire, mais vous êtes à la botte de M. Mélenchon. Il faut dire les choses comme elles sont. Et vous ne voulez pas, je peux le comprendre, parce que moi, à votre place, je serais quand même vraiment mal à l'aise.
Le Premier ministre du côté du RN, c'est forcément Jordan Bardella, et ce ne sera pas quelqu'un LR.
Sachant qu'il a déclaré, Jordan Bardella, que si la majorité absolue n'était pas gagnée dimanche soir, il ne voudrait pas de ce poste de Premier ministre. Donc pour vous, qui serait le Premier ministre idéal, si ce n'est pas Jordan Bardella?
Là, je ne sais pas, c'est le Président de la République qui devra décider quelque chose. Il y aura peut-être une coalition en fait de bic et bouc, de gens qui ne s'entendent sur rien, mais qui s'entendent aujourd'hui sur ne pas écouter une grande partie de la population. C'est ce que je constate. Moi, aujourd'hui, je me bats pour dire qu'il y ait un Premier ministre, qui soit Jordan Bardella, qui est le ministre de l'Union des droites, plusieurs droites, et je crois que c'est la meilleure des solutions. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de dire qui sera le Premier ministre d'une coalition dont on ne sait pas ce qu'elle va être, mais vous amenez les Français dans le précipice et dans l'angoisse.
Cécile Untermaier, la question du Premier ministre, c'est quelque part accessoire, c'est-à-dire que ça doit se discuter après.
Écoutez, il faut être raisonnable, il faut avoir la composition du Parlement, le rapport de force et trouver une solution. La table a été renversée, elle a bien fait d'être renversée parce que moi, depuis 2022, je suis en souffrance dans ce Parlement où beaucoup de bêtises ont été faites par les macronistes. Ça, c'est vrai. Les réformes de retraite, quand on a 75% de la population qui est dehors et qu'on l'adopte avec le 49-3, ça n'est pas possible. Quand on a les super profits et des dividendes versés, des milliardaires qui s'enrichissent et des grands groupes qui ne payent pas d'impôts pendant que les PTE et les PME les payent, on a suscité la colère parce qu'il n'y avait pas de justice fiscale. Donc moi, je crois que maintenant, le message, il a été entendu. En tout cas, je l'espère. Est-ce que je veux vraiment ? C'est que le Parlement soit fort. Parce que sans le Parlement fort, on n'y arrivera pas. On sera dans la main d'un gouvernement. Et si c'est M. Bardella, vous serez dans la main de ce gouvernement. On sait bien comment ça marche.
Éric Michaud, vous êtes un député fort. C'est quelque chose qui veut dire qu'il faut que vous puissiez faire entendre votre voix, qui ne sera pas forcément inféodée au RN.
Mme Untermaier a raison de dire qu'il faut un Parlement fort. Mais si on va vers une coalition telle qu'elle se
Mais
prépare,
on va vers
vue,
rien, là.
Cette coalition qui va depuis le NPA à M. Macron, ça sera la chienlit pour reprendre. Le seul Parlement fort qui peut exister, c'est celui qui est en train de naître de la force de l'Union des droites, avec M. Bardella comme Premier ministre.
Quitte à être un bon petit soldat.
Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que vous auriez voté pour la loi soutenue concernant les médecins. Est-ce que ça sera le cas si votre coalition vous dit non, vote contre?
Oui.
Il n'y aura pas de vote de principe.
Ça dépend des sujets. Moi, je vais être un député qui va représenter la Bresse et représenter la ruralité. Et dans des sujets de la ruralité, je ferai valoir l'intérêt de mon territoire, évidemment.
Même question, Cécile Untermaier. Si la coalition de gauche serait plus pour une loi que vous ne défendriez pas, est-ce que vous resteriez fidèle à vos valeurs ou est-ce que vous iriez dans le sens?
Mais évidemment, mais je l'ai fait souvent. Je veux dire, mon passé parle de ça. J'ai toujours et j'ai expliqué ma singularité. Et c'est pour ça que je me plais bien finalement au Parti Socialiste, parce que c'est un parti centralisé, un parti de gouvernement qui permet une forme de liberté. Généralement, je convainc mes collègues de voter les textes que je pense qu'il faut voter et dans mon domaine de compétences. Mais ceci dit, parlant de Mélenchon, Monsieur Michou, vous avez quand même drivé sur beaucoup d'étiquettes.
À force
d'en parler, si Mélenchon représentait 50% de la population, vous deviendriez mélenchoniste, parce que c'est ça l'opportunisme.
Non, vous parlez. Voilà.
Mais bon.
C'est pas nécessaire de parler pour moi. Dites-moi les 6 étiquettes dans lesquelles j'étais. Allez-y, dites-les.
Écoutez, il y a le MoDem,
non,
l'UDI.
C'était, non, c'était l'UDF, Mouvement démocrate.
Non, MoDem.
L'UDI, j'ai jamais été.
Non, mais attendez.
Allez-y.
Mais tous vos amis le disent.
Mais vos amis,
ennemis.
Mes amis,
on
madame,
le sait bien.
Mais c'est vous qui parlez.
Et vous avez toujours été dissident.
Mais c'est pas quand, vrai. Mais dites-moi quels sont les
attendez, moi, je m'en félicite parce que ça m'a facilité la vie.
Ce que je vous propose,
non, mais ça va.
S'il vous plaît, arrivez au terme.
Non, c'est pas vrai.
Monsieur Michou.
Pouvez-les, donnez-les.
on va arriver au terme de cette émission.
Vous affirmez quelque chose qui est faux.
Ce que je vous propose, c'est
de poser la
question. Mais deux mensonges ne font pas une vérité, madame.
Mais vous êtes bien connu pour votre inconstance, monsieur Michou.
Mais
tous les gens, LR le disent.
Mais bien sûr que non. Vos amis, LR, bravo alors.
Alors, je vous demande effectivement de respecter quelque part les auditeurs qui vont, qui attendent votre conclusion.
C'est Bardella.
Bien sûr, j'en ai conscience. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à ce qu'il soit Premier ministre.
S'il vous plaît, Angela.
Un mot pour finir.
Oui, je crois que là, les auditeurs se perdent un petit peu. Donc, à cet instant, il est temps que vous apportiez chacun votre conclusion. Vous avez chacun une minute. Madame Untermaier, c'est à vous d'apporter cette conclusion en une minute, s'il vous plaît.
Alors, je remercie mes amis politiques et ses collègues qui ont pu être mes adversaires, mais avec qui je partage une vision républicaine. Ils m'apportent directement ou indirectement leur soutien. En particulier Anthony Vadeau, lequel s'est désisté pour me permettre de gagner. Je m'adresse aussi à ceux qui, en votant Rassemblement national, ont exprimé une colère que je comprends et à ceux qui ne sont pas allés voter. Mon programme, c'est vous, et encore vous, au service de notre territoire et toujours en soutien pour vous qui venez par centaines depuis des années pour tenter de régler avec moi un problème qui pourrit votre vie. La table a été renversée. Il nous faut désormais poser les réformes attendues sur cette table. Jean-Luc Mélenchon, c'est fini. Il ne sera jamais Premier ministre. Loin de la fureur et de la haine, la France a besoin de retrouver l'apaisement et l'Assemblée nationale, la force d'agir tout de suite. Pour le pouvoir d'achat, la santé, l'école et la sécurité publique, continuons ensemble pour la solidarité et la justice.
Merci. Éric Michou, c'est à vous de conclure.
La France est au bord du chaos, on l'a évoqué, le chaos institutionnel, le chaos politique. Ce chaos a largement été le résultat d'un mode politique qui existe depuis des années et dont Madame Untermaier a été complice, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ont voté par millions, 11 millions de personnes ont voté pour la liste de coalition de droite. Ils veulent plus de sécurité, ils veulent plus de pouvoir d'achat, ils veulent moins d'immigration. Alors votez Monsieur Bardella, votez Éric Michou, surtout faites attention à Monsieur Mélenchon et à ses sous-fifs. Non à Mélenchon, non à Mélenchon, votez pour un Premier ministre qui va être Monsieur Bardella, qui est le seul capable aujourd'hui de mettre de l'ordre dans ce pays.
Merci Éric Michou, ce débat est terminé, il sera rediffusé demain à 13h sur Radio Brest, une traduction également dans le journal de Saône-et-Loire je crois, David Pipogno.
Dès ce soir oui, à partir de 21h, 21h30.
Et puis l'indépendant avec son format Hugo Simard de bi hebdomadaire, quelle est la proposition?
Non, il y aura une retranscription mais pas tout à fait dans le même style parce qu'on ne paraîtra que mardi prochain, donc voilà, ça va être un petit peu différent.
Mais un pas de côté qui peut être aussi intéressant. Et bien sûr, cette émission, elle peut se retrouver sur le site internet radiobrest.com. Merci à tous de l'avoir écouté.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci de l'avoir regardé.
Radio Brest. 92.8. Naturellement.
Naturellement.
Radio Brest sur internet, c'est www.radiobrest.com.